Vous écoutez
RMC.
RMC.
Comme du prochain meilleur milieu de terrain, certains osaient des comparaisons avec Zinedine Zidane.
J'aime bien Cendrillon et tout, elle a retrouvé son carrosse, ok, c'est très bien, mais à un moment donné.
Sa chaussure.
Sa carrosse, sa chaussure, ce que c'est.
Tu veux dire que je suis finito ?
Non, pas du tout, Walid, mais je dis que dans le cycle de la vie, il faut préparer l'après Walid, ou en tout cas l'avec Walid.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Bravo Adem est avec nous, sa première c'est dans Génération bon, After. Punchline, hein, c'était épisode 1 de la nouvelle star de l'After au stade Jean-Bouin.
C'est un bon épisode.
Tu vas attaquer frontalement Walid. T'as tout vu ou pas, toi Fabrice?
Non, j'ai pas vu quasiment tout. Ouais,
quasiment tout.
La finale, cet épisode, je l'avais vu aussi.
Le dernier est en ligne, vous le savez, version montée avec les coulisses depuis 18h sur YouTube. Allez-y, 40 minutes, c'est merveilleux. On s'est régalé sur la finale, beaucoup d'émotions bien sûr. Et donc Adem est avec nous ce soir. Alors, le PSG, on profite de la présence de Fabrice qui a signé un papier sur le site rmcsport.fr, notamment sur le mercato parisien. Évidemment, quand tu es supporter parisien, tu te demandes, tu as un peu partagé, tu te dis, est-ce qu'on va maintenir une stabilité alors qu'on va le dire, hein, sur les 6 premiers mois, certains ici même disaient, mais pourquoi on n'a pas recruté, pourquoi on n'a pas anticipé?
Ça fait deux saisons qu'on faisait la même chose.
On tient sur 12 joueurs d'un niveau homogène, ça ne va pas tenir, on va coincer en quart, en demi. Finalement, c'est Luis Enrique qui a eu raison.
Et avec son staff,
ils ont très bien bossé, et Luis Campos également. Est-ce que, en revanche, j'ai en tête, hein, il y a quelques jours, une déclaration de Luis Enrique qui avait dit, il va falloir renouveler un petit peu l'effectif quand même.
Bien sûr.
Le rafraîchir aussi. Mmh. Est-ce que le mercato 2026 et 2026 sera différent du mercato 2025?
Oui, parce que pour moi, il y a eu un mercato qui est vraiment il était vraiment très à la marge, en fait, la saison passée. Il y a eu deux arrivées, il y a Zabarni, Lucas Chevalier, ça négociait d'ailleurs depuis de très très longs mois, donc c'était dans les petits papiers, presque en mai, tu savais quel était le mercato du Paris Saint-Germain. Là, c'est légèrement différent parce qu'il y a des joueurs qui arrivent en fin de cycle, j'ai envie de dire, ouais, il y a bout de souffle, qui ont envie de partir, clairement, que le club ne retiendra pas. Je pense notamment à Gonzalo Ramos, je pense à Kanginli aussi. Ce sont des joueurs qui seront remplacés. Ils seront remplacés par des joueurs de niveau, j'ai envie de dire, équivalent, hein, notamment pour Gonzalo Ramos. Je pense pas qu'ils vont amener quelqu'un qui revendique quoi que ce soit. De toute façon, Paris Saint-Germain, aujourd'hui, c'est difficile de revendiquer quoi que ce soit, hein. C'est Luis Enrique qui décide. Mais j'entends par là, je pense pas qu'ils vont remplacer Gonzalo Ramos par un joueur à 100 millions d'euros.
Donc, pour être très clair, pas par un Rolien Alvarez, par exemple.
Non.
Ça, c'est aussi un délire absolu. Ça coûte 100 millions minimum, hein, Rudy Alvarez, aujourd'hui.
Un minimum, comme
le
tu dis.
Le PSG les mettra pas, en plus, pour quel rôle au PSG, quoi? Est-ce que lui aura envie de venir pour un rôle de doublure, finalement, d'Ousmane Dembélé? Ce serait ça, la réalité. Sauf s'il y a un changement de système improbable, selon moi, l'an prochain.
Non, je pense pas qu'il viendra, et pour plusieurs raisons. Déjà, il y a le prix, et il y a aussi le fait que, aujourd'hui, pour jouer au Paris Saint-Germain, maintenant, c'est un grand club, c'est une grande institution, et il souhaite que les joueurs aient envie de venir au Paris Saint-Germain, et uniquement au Paris Saint-Germain. Et c'est pas les signaux qu'il a envoyé, Julian Alvarez, sur ces derniers mois, et c'est ce qui me fait dire qu'à mon sens, il ne viendra pas. Pour parler des joueurs qui sont susceptibles de partir, ou en tout cas pour qui il y a une question. C'est pas parce que je vais les citer qu'ils vont nécessairement partir, mais en tout cas la question se pose aujourd'hui. C'est Nima Yulu qui arrive en fin de contrat en 2027, donc l'année prochaine ça va arriver vraiment très vite. Pour lui, il y a là en fait il faut choisir. Où il part, où il reste. Mais s'il reste, il prolonge. Et donc, il y a des négociations qui sont en cours et on va voir comment ça va se
terminer. En attendant, chez lui, en tout cas, de ce qu'il voudrait faire ou pas, c'est Nima Yulu.
Lui veut rester.
Il veut rester quand même.
Ouais, lui veut rester. Ensuite, il y a Ibrahim Baye, lui aussi, fin de contrat 2028. Donc, c'est un joueur, et ça aussi, je pense que les gens ne s'en rendent pas bien compte, sur le marché des ailiers de rupture qui sont rapides, qui sont jeunes comme lui, il n'y en a pas énormément. Donc aujourd'hui, un Ibrahim Mbaye sur le marché, il y a des clubs qui sont prêts à payer entre 40 et 60 millions d'euros. Donc la question va se poser pour lui aussi, est-ce qu'il reste ou est-ce qu'il part? Et puis enfin, Bradley Barcola, qui lui, pour le coup,
alors ça, c'est important.
C'est un très très gros sujet, parce qu'international français, parce qu'il y a des clubs, et des clubs de premier plan, notamment en première ligue, qui lui font la cour depuis des années, qui sont prêts à casser la banque. Donc sur ce profil-là, il va vraiment y avoir des sujets. On rappelle simplement, en fin de contrat 2028, il y a des négociations qui sont en cours, j'allais dire depuis 6 mois, mais quasiment depuis 24 mois, c'est ça la réalité pour Bradley Barcola. Il n'y a toujours pas eu de prolongation. Entre-temps, il a changé d'agent, c'est pour ça aussi.
On
peut comprendre que ça traîne un peu. Mais il va falloir quand même prendre une décision, elle n'est pas prise encore.
Lui, on ne connaît pas sa volonté aujourd'hui. Voilà.
Très honnêtement, non.
On ne connaît pas sa volonté. Bradley Barcola qui... Il y a une fatalité pour lui, finalement. Il sera toujours derrière les trois.
Au nom de quoi?
Il sera toujours derrière les trois.
Qui l'a décrété? qu'il a décrété.
Louis Enrique.
C'est l'étage en dessous, je trouve.
Non, c'est en dessous pour toi,
Adel. Non, moi, je suis pas d'accord parce que, encore une fois, on a bien vu que sur la première partie de saison 2025-2026, il a beaucoup joué. Je n'oublie pas que sur les barrages.
Il a beaucoup joué sur quoi?
Les mecs n'étaient pas là.
Il a beaucoup joué. Je n'oublie pas que sur le barrage contre Monaco, il a joué. Je n'oublie pas qu'il a, il a été impactant contre Chelsea, aussi bien au match aller qu'au match retour, et que sa saison, elle tourne parce qu'il y a la blessure causée par Joao Pedro.
Non,
et que par rapport à ça, il y a d'autres joueurs qui, à son absence, c'est vrai, ont été très importants. Mais pour moi, quand on sait qu'on a un entraîneur, Luis Enrique, qui n'est pas dans le conformisme, qui n'est pas dans l'immobilisme, et qui est capable justement de bouger les lignes et de remettre en question certains statuts, je veux dire, Désiré Doué est passé par le banc, Garachea,
oui,
que tout le monde porte au nu, est passé
rappel,
sur le banc.
On a vu sur la finale que Zaire Emblak, il a joué, on a compris la croyance tranquillement quand Fabian Ruiz revient.
On a compris la croyance profonde de Luis Enrique, j'ai l'impression quand même.
On a son 11 type, on le connaît, et moi je trouve que Bradley Barcola, oui, il a été excellent quand on a fait appel à lui, mais je trouve tout simplement qu'il y a meilleur que lui au poste. Aujourd'hui, il y a un plafond de verre pour Bradley Barcola, surtout techniquement. Moi je le suis, que je ne vois pas pour Kvaratskhelia, à qui je ne fixe pas de limite, à qui je ne vois pas pour Doué, parce que je ne vois pas de limite technique et de plafond de verre à poser à Doué. Alors que Barcola, on a bien vu qu'il stagne, moi je trouve, depuis deux saisons. Il y a eu ces deux buts contre Chelsea où on s'est dit peut-être que, mais j'ai bien l'impression que c'était le coup d'un soir et pas le coup d'une saison.
Pourtant, je te trouve un peu dur avec Bradley Barcola, ouais, parce qu'il a un profil atypique, parce que aujourd'hui, justement, je parlais tout à l'heure des ailiers de rupture, des joueurs qui sont capables comme ça d'avaler les kilomètres. On l'a vu d'ailleurs quand il est rentré contre le. En finale de Ligue des Champions contre Arsenal, il aurait pu faire mieux sur les deux occasions qu'il a eues, mais en tout cas il se crée ces situations-là, et c'est aussi pour ça sa cote elle est élevée, qu'il y a énormément de clubs sur lui. Tu parles de déchets parfois techniques devant le but, je pense qu'il peut progresser encore.
Fabrice,
en fait moi je pense que c'est franchement juste les goûts et les couleurs, et aujourd'hui je suis persuadé que malheureusement pour Bradley Barcola, Luis Enrique préfère Désiré Doué, et ça c'est la réalité, parce que en fait il y a même pas de sujet. Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé, quand ils sont à 100%, ils vont jouer les gros matchs de Ligue des Champions.
Mais Désiré Doué, c'est pareil, Fabrice.
Et Désiré Doué,
je pense là aussi aujourd'hui.
Non, non, mais bien sûr. Mais c'est le constat qu'en fait tu fais. Et aujourd'hui, quand tu es Bradley Barcola, moi je sais pas ce qu'il a décidé, je sais pas ce qu'il pense. Mais en tout cas, quand tu es Bradley Barcola, t'es obligé de te poser la question de savoir si tu veux rester.
C'est ça.
Tu ne joueras pas.
C'est un choix de vie.
Ces grands matchs là, quand les autres seront là, ou alors est-ce que tu veux tenter une nouvelle aventure? T'as déjà deux Ligue des Champions.
Sûrement dans un 11 d'un grand club anglais.
Exactement.
Très certainement, que ce soit à United ou ailleurs, mérite-t-il de vivre une autre expérience ailleurs. Après, Nico, en étant un cadre dans un grand club européen. C'est un choix presque personnel.
J'ai pas envie d'être définitif sur un joueur qui a 23 ans, sur un joueur qui, depuis 3 saisons en Ligue des Champions.
Tu trouves qu'il progresse réellement sur l'année passée?
Moi, je n'oublie pas encore ce qu'il faisait en début d'année civile. Et on parle d'un joueur qui conditionne des phases éliminatoires de Ligue des Champions.
Moi, je suis d'accord. Il progresse. Mais malheureusement, peut-être que les autres progressent plus vite.
C'est surtout qu'en fait, il y a d'autres joueurs qui tutoient les étoiles. On parle de Kvaratskhelia comme un candidat au ballon d'or, on parle d'Ousmane Dembélé comme d'un ballon d'or en titre. Voilà la référence, voilà entre guillemets le niveau. Mais Barcola, je vais pas l'excuser, enfin je vais pas l'attaquer parce qu'il a pas le niveau d'un ballon d'or.
Mais tu sais, donc, Elton, en début de saison, je pense que oui, c'est la saison dernière où il y avait des matchs où c'est vrai que Désiré Doué, il avait pas encore tutoyé les étoiles comme tu dis.
Bien sûr.
Et Luis Enrique à l'époque, il avait déjà le choix entre les deux. Et souviens-toi qu'il jouait les grands matchs, c'était déjà Désiré Doué. Alors qu'en réalité, rien ne le prédestinait à jouer plus que Bradley Barcola.
Parce que attention,
c'est lui qui était choisi.
Je suis pas en train de dire que Barcola est un mauvais joueur, c'est un top ailier mondial aujourd'hui, c'est un remplaçant de luxe, c'est un remplaçant de luxe pour le Paris Saint-Germain qui a la chance de l'avoir. Mais si je me place en tant que joueur, ce que je ne suis pas, mais si j'étais Bradley Barcola et que je ne suis jamais sur la photo finale, jamais là en finale de Ligue des Champions, jamais là dans les 30 nominés au Ballon d'Or, jamais là au trophée UNFP quand il faut titrer le meilleur joueur de Ligue 1, et que tous mes copains y sont, et que même en équipe de France, Désiré Doué est devant toi parce que tu te retrouves derrière lui en club.
Ça va être intéressant d'ailleurs de le voir.
Et ben si le Bayern Munich toque à la porte, si Liverpool toque à la porte, si Arsenal toque à la porte, je suis à l'écoute des offres, bien évidemment.
Moi j'y vais.
Moi Nico, je dis que l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs, et que
t'as gagné des Ligues des Champions quand même.
C'est bon, ça y est.
Et tu peux aussi faire l'histoire. Et moi,
je te dis pas qu'il faut qu'il parte.
Je dis sincèrement que aujourd'hui, 45 matchs titulaires au PSG,
c'est pas les bons matchs.
C'est mieux que 65 matchs dans un autre club.
Frustration pour Barcola. Il fait début de saison, les mecs se pètent l'un après l'autre. Il fait le boulot, c'est lui qui marque. Saison dernière, jurisprudence également, même cette saison.
Mais début de saison,
c'est lui le meilleur buteur du Paris Saint-Germain.
Bien sûr.
Et dès que ça devient intéressant et important.
Et parce bench. Que pourquoi? Parce que
bench.
Mais parce que malheureusement, il y a un fait qui est très important et que vous oubliez. Il y a cette blessure contre Chelsea qui redistribue les cartes. Et en son absence, il y a des joueurs
Adam,
qui.
Mais Adam, il a raison. Achraf Hakimi, il a joué titulaire quand il est revenu en finale de Ligue 1.
Non, mais parce qu'Achraf Hakimi, il a un autre statut. Il a un statut de titulaire qui est beaucoup plus affirmé.
L'année dernière, jusqu'au.
Il n'y a personne derrière.
En plus.
Sur les saisons précédentes, il y a une saison où on arrive en janvier, le meilleur buteur de Ligue 1 est Bradley Barcola. Et pour autant, il pose ses fesses sur le banc le reste de la saison. Donc tu vois bien qu'il peut faire à peu près tout ce qu'il veut. Il se retrouvera sur le banc. Il y a des statuts au Paris Saint-Germain.
C'est comme
les gens veulent nous expliquer qu'il y a une concurrence tout à fait loyale au Paris Saint-Germain. Ce n'est pas vrai. Il y a un 11 type. Non, ce n'est pas vrai. Quand Zaïre Emery, le meilleur joueur du PSG sur les 6 derniers mois, et qui finit sur le banc de touche parce que Fabien Nunes revient, et d'ailleurs, je trouve qu'il a fait une plutôt mauvaise finale, tu vois bien qu'il y a des statuts à respecter aujourd'hui. Non, mais et que certains joueurs.
Des joueurs qui servent à piquer les cadres dans l'esprit de Luis Enrique.
Vous me parlez d'une concurrence déloyale dans l'absolu contre Monaco, c'est Désiré Doué qui était sur le banc. Contre Chelsea au match aller, c'était Kvaratskhelia qui était sur le banc. Ça, c'est la concurrence des loyers.
Non, c'est contre le Bayern. C'est quand il revient de blessure, il est sur une très belle dynamique. Et c'est vrai que certains regrettent qu'il n'ait pas eu sa chance.
Non, mais contre le Bayern, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu Liverpool qui a assis notamment Kvaratskhelia sur un statut encore plus important, Désiré Doué qui a été très impactant. Et donc, forcément, ça conditionne la perspective de Luis Enrique sur le court terme. Parce que quand tu vois une équipe,
je suis pas en désaccord avec toi, foncièrement, mais juste comprends ceux qui se disent, Bradley Barcola, vu de cette saison, qu'est-ce qu'il pouvait faire de mieux, finalement?
Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse de plus pour être titulaire?
Le problème, c'est que t'arrives dans une équipe qui, déjà, a remporté deux Ligues des Champions des suites et qui a un niveau qui est tellement haut.
Le niveau de Kvaratskhelia et de Doué et de Dembélé est plus haut que le niveau de Barcola, tout simplement.
On n'est pas en train de te dire que c'est Gonçalo Ramos dans l'esprit de Luis Enrique, mais il est incontestablement le quatrième parmi les choix offensifs de Luis Enrique. Même quand il est bon, qu'un mec remet juste de blessure.
Ouais, mais c'est un défi qui est très compliqué, mais de là à partir et aller dans un projet où t'es pas forcément.
Tu ferais quoi à sa place, franchement?
Moi, je resterais.
Quand tu connais ton niveau, quand tu sais que tu peux être un cadre dans un grand club européen, tu ferais quoi? Tu
resterais. Spontanément, je resterais parce que j'ai
vraiment. Pour la vie parisienne, tu resterais, toi.
Hein? Oui, c'est ça, tu aurais sorti. Les restos, là où Fabrice te croise en soirée, passer 2h du mat, c'est ça?
Alors, ça, je sais pas d'où viennent ces infos.
Je sais pas d'où elles viennent,
donc. Elles viennent de toi ou de Fabrice, voilà.
Mais non, mais moi, je resterais parce que déjà, moi, je parle d'un joueur qui a 23 ans, qui a déjà démontré sur 3 saisons, qui était un joueur tout à fait dimensionné pour impacter.
Mais je suis d'accord avec toi, sauf qu'aujourd'hui, il y en a 3 devant.
Il faut qu'il profite.
En tournant, là.
Et en sachant qu'en Ligue 1, ça reste un joueur important.
Aurélien est avec nous. 32-16, supporter parisien, il va essayer de trancher ce débat. Salut Aurélien.
Salut à tous.
Bienvenue sur RMC, heureux de t'accueillir.
Salut Aurélien.
Génération After. Adem, Fabrice et Elton sont à l'écoute. Quel est ton point de vue, toi, concernant Barcola? Après, on va parler d'autres cas individuels, notamment celui de Marquinhos avec Fabrice.
Moi, concernant Barcola, justement, on a parlé de plafond de verre et ça me fait penser un petit peu à Ousmane Dembélé. Il y a quelques années, on lui attribuait un petit peu ce plafond de verre. Il avait un gros potentiel, mais il avait un problème, par exemple, à la finition. Il faisait souvent des mauvais choix, justement, dans le dernier carré. Et pour moi, Bradley Barcola, il est exactement dans cette même optique. Et pour moi, c'est un des joueurs qui a le plus haut potentiel actuellement dans le football mondial et on l'a dans notre effectif. Donc je vois pas pourquoi on devrait s'en priver. Il faut aussi se rappeler que quand Kylian Mbappé est parti du PSG, c'était lui qui avait pris entre guillemets les rênes dans la première partie de saison. C'est lui qui avait scoré le plus, qui était le joueur le plus décisif. Après, entre temps, Désiré Doué, il a réussi à éclore et à développer un petit peu tout le potentiel qu'il avait en lui. Mais pour moi, Barcola, il a un potentiel qui est pas encore exploité à 100%. Et pour moi, si on le laisse partir, c'est prendre le risque de voir exploser un petit peu comme on a pu voir avec Hugo Ekitike, entre autres. On a souvent fait cette erreur-là au PSG, et pour moi, Bradley Barcola, c'est typiquement le même type de cas. Donc pour moi, ça serait une erreur de le laisser partir, sachant que déjà pour trouver une doublure de cette qualité, ça va être très compliqué.
Non, ça c'est sûr. Vous
l'avez dit aussi, prendre un joueur qui va venir au PSG avec le statut actuel du PSG, double champion d'Europe, donc il faudra qu'il accepte éventuellement de pas être forcément titulaire. À combien, dans quelles circonstances? En fait, il y a trop d'inconnus aujourd'hui pour se priver de Bradley Barcola.
Oui, mais il faut compter sur la volonté de Bradley Barcola, Aurélien.
Exactement.
C'est celui qui va décider.
Parce qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, et ça fait maintenant depuis 2 ans qu'ils ont mis ça en place, un joueur qui ne souhaite pas rester au Paris Saint-Germain, on lui montre la porte de sortie.
évidemment à la condition qu'un club vienne avec la somme réclamée par le Paris
Saint-Germain. C'est quoi sa cote aujourd'hui, tu
penses? Pour le moment, Bradley Barcola n'a pas dit qu'il souhaitait partir, c'est ça aussi. En tout cas,
c'est quoi si
il tapait à la porte du directeur sportif ou du président en disant toc toc, j'ai envie de m'en aller, c'est une certitude qu'il n'y aurait pas de chiffre. Tout à l'heure, on parlait de ce que réclame Leipzig pour Diomandé autour de 130 millions d'euros.
C'est dingue.
Moi, je pense que on va être dans les mêmes ordres de chiffres.
Non, mais voilà, justement, parce que Nico, la vérité, c'est que si Bradley Barcola est sur le marché des transferts, tous les clubs de la super élite européenne tapent à la porte du PSG. Sûr. Et pourquoi je dis ça?
Et c'est déjà
le cas. Oui, parce que la vérité, c'est que.
C'est moi, je ne parle pas de son niveau et de ce qu'il peut faire.
Non, mais le PSG, pour moi, se tire une balle dans le pied parce que Fabrice, il nous a dit avec justesse le fait qu'on est dans un poste sinistré.
Ils veulent pas faire partir Elton. Ils subissent la décision d'un joueur frustré. Non, ça n'a rien à voir.
On est dans un poste sinistré. Et donc, toi, en gros, tirer sur un poste sinistré, mettre plus de 100 millions d'euros sur un joueur qui serait moins bon que Bradley Barcola, ça n'a aucun sens.
Mais ce n'est
ça
pas le choix du club. Le club, s'ils avaient le choix, ils le prolongeraient, Bradley Barcola.
Mais totalement, le club veut le prolonger. Le club veut absolument le prolonger.
Si la porte elle est ouverte, c'est juste pour ne pas répéter les erreurs du passé avec Kylian Mbappé notamment. On ne veut pas forcer les joueurs à rester. Donc Bradley Barcola, s'il pense que l'herbe est plus verte ailleurs et que pour sa carrière, le meilleur est d'aller en Angleterre, au Bayern ou je ne sais où, eh ben le club va ouvrir la porte et trouver un remplaçant.
Le jour où la porte est ouverte, effectivement, tu as tous les plus gros clubs européens.
Bien sûr,
encore totalement ouverte parce que Bradley Barcola aujourd'hui, tu le poses question, il te dit pas je vais partir, donc
alors vas-y Aurélien.
Oui, non, c'était ça en fait, ce que je voulais soulever, c'est lui, il n'a pas émis concrètement le désir de vouloir partir, il veut jouer je pense titulaire, mais comme je sais pas qui l'a souligné tout à l'heure, je crois que c'est Elton, au moment de la phase finale où on doit prendre, où on prend Jesse, je trouve qu'il fait une très belle performance, et c'est vrai que sa blessure en fait, elle lui coupe un petit peu l'air sous le pied, et donc du coup ça lui permet pas de renchaîner. Pour moi, Barcola, vraiment, c'est, je vais pas dire le copier-coller de Dembélé il y a quelques années, mais on s'en rapproche. Mmh. Et avec Luis Enrique comme coach, je pense qu'il peut faire passer un palier à ce joueur-là. Et je pense qu'il est conscient de ça.
Alors, lâchons le cas Barcola, les amis. Il y a un cas aussi qui est un peu épineux, celui de Marquinhos, qui a été porté au nu sur la fin de la saison, notamment après la finale de Ligue des Champions, pour le symbole qu'il représente, les valeurs qu'il véhicule, le brassard, bien sûr, l'homme qui a lutté, la résilience depuis maintenant quoi 11 ans au PSG,
13
ans. Bientôt 13 ans.
13 ans bientôt au Paris Saint-Germain.
11 mois précisément.
Il est passé lui, il a 31.
32.
Ça y est, il les a eu les 32.
Je me pose une colle.
Normalement,
oui.
Ouais, il les a eu.
Normalement 32. Ouais.
Qu'est-ce qu'il veut faire
mai dernier.
Ça c'est la grande question. Qu'est-ce qu'il veut faire lui? Qu'est-ce qu'on compte faire avec lui aussi? Est-ce qu'on repart dans l'idée, le syndicat repart dans l'idée qu'il est titulaire en charnière aux côtés de Pacho la saison prochaine encore une fois, alors qu'on a vu certaines limites parfois cette saison?
Déjà, ce qui est intéressant, c'est son âge. Tu l'as signalé, parce que dans l'esprit des gens, on a l'impression que Marquinhos, il a 40 ans. Marquinhos, c'est la 32 ans.
Oui, mais sur le terrain, tu ressens aussi
au plus haut niveau, Thiago Silva, c'est
une légère régression.
Tous ces joueurs-là ont joué jusqu'à 36 ans au très très haut niveau. Et aujourd'hui, bon, c'est vrai que parfois il est un petit peu moins bien. C'est pour ça, physiquement, je parle. C'est pour ça aussi que, si vous remarquez bien, Luis Enrique l'a beaucoup fait jouer en Ligue des Champions, beaucoup moins en Ligue 1, pour justement conserver cette fraîcheur-là aussi. Lui, qu'est-ce qu'il veut? A priori, pour le moment, il veut rester au Paris Saint-Germain. Les dirigeants ne le poussent pas vers la sortie parce qu'ils respectent le joueur qu'il est, parce qu'il a encore montré cette saison qu'il pouvait rendre des services et qu'il pouvait être performant dans des matchs à très haut niveau et à très grosse intensité. La question, en fait, c'est de savoir est-ce qu'ils vont recruter ou pas. Et pour le moment, s'ils ne sortent pas à Barnier et que Marquinhos ne souhaite pas partir, ce qui est la tendance, il n'y aura pas de recrutement à ce poste-là.
Moi, je ne comprends pas le procès qui est fait à Marquinhos chaque été. On a l'impression, comme tu l'as dit Fabrice, qu'il a 45 ans et qu'on doit le mettre à la retraite. Sauf que quand tu regardes les matchs importants de Ligue des Champions qu'il a eu à jouer, contre le Bayern, il a été très très bon. Contre Liverpool, c'est lui qui fait le sauvetage, on se rappelle, sur le corner face à Van Dijk. Sur la finale, on va en parler de son but, mais ce ricochet-là, n'importe quel défenseur aurait pu faire. Ça, c'était juste pour essayer de lui mettre le maximum de responsabilité sur les épaules pour le sortir. Moi, Marquinhos, aujourd'hui, tu peux te permettre de ne pas le faire jouer en Ligue 1, comme ça a été le cas. Tu peux le garder au frigo pour les grandes soirées de Ligue des Champions. Pourquoi Marquinhos serait moins performant la saison prochaine que ce qu'il n'a été cette saison? Surtout que, même si beaucoup de personnes ne sont pas d'accord, Marquinhos a été très très bon dans les momentum importants du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Et surtout, il a une importance prépondérante dans le vestiaire. C'est et dans une équipe où il y a énormément de jeunes, une moyenne d'âge de seulement 25 ans, avoir un taulier comme ça dans le vestiaire, ça ne va pas être remplacé avec des millions d'euros.
C'est un monument qui est respecté par tous les joueurs, par le staff, par les salariés du club, qui est très apprécié. Alors vous me direz, ça fait pas une fois qu'on a dit ça,
c'est pas ce boulot-là qui fait entre guillemets à l'extérieur du terrain qui va le permettre d'être performant sur le terrain. Mais ça compte aussi dans un club comme le Paris Saint-Germain. C'est vraiment lui le garant de l'institution. D'ailleurs, vous regardez bien depuis que le Paris Saint-Germain a évolué sur ces dernières années, il est vraiment mis en avant. Alors qu'il pourrait mettre en avant sur certaines campagnes publicitaires les Doué, les Dembélé, les Hakimi. C'est vraiment lui qui est le garant de cette de ce vestiaire-là.
Quand tu regardes les célébrations à chaque fois des victoires en Ligue des Champions, il est le président tout le temps.
Tant qu'il peut être performant, je pense que le Paris Saint-Germain, je suis sûr même, ne le mettra pas à la porte.
Et on a vu la gestion par Luis Enrique d'une saison entière pour Marquinhos. La Ligue 1, c'est même pas 30% de titularisation. Il compte sur lui et uniquement.
Bah, c'est pour ça que pour moi,
sur Ligue des Champions.
Luis Enrique, il a
donc il y a une gestion possible encore sur une voire deux saisons peut-être. Non,
Luis Enrique, il a trouvé un cheat code sur la gestion de Marquinhos. Exactement. Ça redistribue écart parce que moi, autant en fin de saison dernière, je me disais que voilà, tu pouvais envisager la sortie de Marquinhos, mais est arrivé notamment cette gestion particulière où on a beaucoup plus un Marquinhos en qualité qu'en quantité. Et ça te donne quoi? Ça donne un Marquinhos qui est déterminant sur la phase éliminatoire de Ligue des Champions. Et je vais même te dire quelque chose. Ça favorise aussi la transition, l'intégration d'un Zabarni. Parce que, en fait, si tu fais partir un Marquinhos, t'accélères, entre guillemets, l'intégration d'un Zabarni.
Zabarni tout de suite.
Exactement. Et là, Zabarni, là, sa saison, elle est certes contrastée, mais ça porte pas à conséquence, précisément parce qu'il y a un Marquinhos. Et moi, je me dis que dans la réflexion de la politique sportive du PSG, le fait d'avoir un Marquinhos de qualité, ça peut aussi couvrir l'investissement d'un Zabarni en te disant, OK, sur la première saison, il n'a pas été extraordinaire, mais sur la deuxième saison, il peut monter en puissance parce qu'il y a Marquinhos.
Moi, le débat, il serait plus sur une doublure à Pacho, parce qu'on voit que Beraldo est passé maintenant doublure en numéro, poste de numéro 6, que Pacho joue tous les matchs, quasiment, sans exception. Donc moi, la question, ça serait peut-être d'aller chercher un central gauche pour soulager un petit peu Pacho. Mais la question du central droit, pour moi, étant donné que Zabarni est là et l'investissement qui a été mis sur lui l'été dernier, pour moi, c'est un faux débat.
Bon, tu parles de côté gauche, axe gauche de la défense du Paris Saint-Germain. Parlons de latéral gauche également, Fabrice. C'est une des infos, un élément de réflexion au PSG. En tout cas, que faisons-nous à Paris avec Lucas Hernandez? Le PSG cherche une doublure à gauche.
Oui, le PSG cherche une doublure à gauche.
Donc, s'il cherche une doublure, ça veut dire que
profil
terminé pour Lucas Hernandez.
Comment
ça veut dire ça?
Ben non, ça veut dire
que
si Hernandez, contrairement à d'autres joueurs,
tu vois les infos, tu dis,
on cherche, ils vont pas dire non, reste. Voilà. Mais non, mais c'est un joueur aussi qui est très respecté, très grand professionnel. Vous l'avez vu quand il rentre en Ligue des Champions, qui joue 2 minutes, 10 minutes, qui joue pas du tout. Il est dans l'esprit, donc c'est quand même un joueur.
Sa vie à Paris, tout va bien. Le salaire est énorme.
Non, mais c'est un joueur pour qui le club a du respect. C'est ça que je veux vous dire, c'est qu'il respecte le club et le club le respecte aussi. Donc il sera pas mis à la porte comme un malpropre. Maintenant, il y a une réalité, c'est que si un joueur avec ce profil-là arrive, c'est-à-dire gaucher, plutôt jeune. Donc on imagine aussi performant qui va essayer de gratter du temps de jeu, aller gratter les chevilles de Nuno Mendes, pourquoi pas, de Pacho compliqué. Aussi on comprend bien que mathématiquement il y en a un qui va en faire les frais et ce sera Lucas Hernandez. Donc après ça va être comme pour Donnarumma la saison passée, on lui a expliqué que Lucas Chevalier allait arriver en numéro 1, c'est où tu restes mais tu vas pas beaucoup jouer, où tu t'en vas chercher du temps de jeu ailleurs.
Surtout qu'on a vu avec Luis Enrique, Lucas Hernandez peut jouer ce poste de central gauche, sauf que Luis Enrique ne le considère absolument pas comme un central. Donc si un arrière gauche arrive, malheureusement pour lui, ça a l'air d'être la fin.
Exactement. Alors, beaucoup de questions également concernant Élie Kroupié Junior. Si c'est lui que le PSG a tiré dès cet été, après son excellente saison à 12 buts en Première Ligue.
13 même.
Il est passé à 13, oui.
Ouais, 13.
Saison. Merci Elton. Est-ce que c'est une réflexion ou pas, Fabrice, Élie Kroupié Junior, plutôt qu'un Julian Alvarez qui semble préférer aller au Barça?
Il y a beaucoup de joueurs qui sont regardés, apprécié aussi par la direction sportive, par Luis Enrique. Et en fait, pour pas exciter les gens, il faut leur dire la vérité. Je pourrais vous dire aujourd'hui que oui, le Paris Saint-Germain va aller recruter Junior Kroupié, mais la réalité c'est que un, j'en sais rien, et deux, on ne sait pas si vraiment ils vont activer la piste. Est-ce que c'est un joueur qu'ils apprécient? Oui. Est-ce que c'est un joueur qu'ils vont activer? Non. Moi, des noms de joueurs qui sont pas sortis, qui sont appréciés par la direction sportive, j'en connais, mais c'est pas pour autant qu'ils vont aller dessus. Et c'est comme ça tous les étés. Donc, il est un peu trop tôt à mon sens pour dire si oui ou non ils vont se positionner sur lui. Mais en tout cas, oui, c'est un joueur qui est apprécié par les dirigeants du Paris Saint-Germain, mais il est apprécié par. Je vous mets au défi de me citer une direction sportive qui n'aime pas aujourd'hui.
C'est le Golden Boy, c'est l'attraction du marché estival avec Julian Alvarez, et ça en dit long sur sa considération, parce que à partir du moment où tu as marqué 13 buts en Première Ligue, ça t'envoie sur un autre monde. À partir du moment où t'as contribué au fait que Bournemouth soit 6e de Première Ligue, forcément tu vas être très attractif, pas seulement du côté des clubs anglais, mais surtout du côté des clubs européens. Il est en plus de nationalité française, donc forcément ça va être l'attraction du mercato. Maintenant, j'ai envie de te dire quelque chose, Nico, c'est que son futur investissement de transfert bah, d'une certaine manière, le protéger et donc redistribuer des cartes. Je veux dire par là, si tu l'amènes à 100 millions d'euros, c'est pas pour jouer des éléments de composition.
Ça aussi, c'est une autre question. C'est pas pour, bah, bien sûr que si, parce qu'aujourd'hui, et on en parlait tout à l'heure, quand on parle de Désiré Doué, de Kvaratskhelia, de, si, on parle tout, depuis tout à l'heure du probable, bah, du possible, si jamais il souhaite s'en aller et des Barcola. Mais on parle de tout ça pourquoi? Parce que justement, il a un temps de jeu qui est insuffisant. En tout cas, il pourrait peut-être prétendre à plus. Elie Junior Kroupi, s'il arrive au Paris Saint-Germain, qui coûte 50, 100 ou 150, c'est pas pour ça qu'il va prendre la place de Désiré Doué.
Il a coûté 65 et pourtant il a posé ses fesses sur le banc.
Il tendance à croire qu'à son âge il acceptera dans un premier temps.
Attention, non, je suis pas fermé sur ça parce que.
Kroupi Junior.
Non, j'y crois pas.
Tu arrives au PSG, tu bouges pas d'Europe.
Il a le vent en poupe, il a tous les grands clubs anglais.
Il faut aussi te dire que Elie Kroupi, il a le choix du roi. Il a le choix du roi, il y a beaucoup de clubs qui vont se positionner sur lui. Et que forcément, il a envie d'avoir un statut de titulaire.
La difficulté pour moi dans ce dossier réside aussi dans la négociation qu'il va y avoir entre Bournemouth et le club qui va l'accueillir. Parce que la réalité, c'est que Bournemouth, ils ne veulent pas le vendre. Ils jouent une Coupe d'Europe et ils en demandent autour de 100 millions d'euros. Est-ce que le Paris Saint-Germain aujourd'hui est prêt à payer 100 millions d'euros sur ce profil-là? C'est un très bon joueur, il n'y a rien à dire. Mais est-ce qu'ils sont prêts à lâcher 100 millions d'euros? Ça va être une vraie question. Et la question va aussi se poser pour Yann Diomandé, dont on parle beaucoup.